Le naufrage. J'ai fait naufrage sur cette mer déchaînée qu'est le monde. J'ai vu couler à pic tout ce que j'attendais de la vie. Schiller, les brigands. Peu avant l'an 300 avant Jésus-Christ, la tête d'une colonne de 300 000 cavaliers et fantassins quittait la rive gauche du Danube et prenait la direction du sud sous le commandement du Brenne, chef gaulois. Au soir du deuxième jour, dans un ciel de sang augurant des luttes prochaines, la queue du serpent de chair et d'acier, déroulant ses anneaux au départ de chaque nouvelle section, s'ébranla. Dans les rangs, émergeant du tumulte, fusaient des ordres dans les parlers de Celtie, de Gaule, de Borée et de pays situés dans les bras du Rhin et les rives de la mer Noire. Des cavaliers ibères, montés sur des pursons du Punt, côtoyaient des mercenaires de Ligurie, aussi disciplinés que les phalangistes romains. Des lanciers illyriens, au corps cuivré, commandaient à des Gaulois, puants l'hydromel, mais habiles à manier le glaive court. Des Wallons aux barbes blondes aiguisaient leurs poignards sur des meules en calcaire des Apennins que des maîtres rémouleurs de Lombardie convoyaient dans leurs bardas. Jamais on n'avait vu troupe plus hétéroclite. Seul, l'objectif était commun, conquérir et piller. Le Brenne avait rassemblé des hommes que rien ne liait. Il avait visité les tribus et harangué les chefs. Il avait promis de fastueuses razzias. Les barbares avaient frémi d'excitation en entendant prononcer le nom du pays que le Brenne offrait à leur avidité, la Grèce. Le plus vieux, le plus riche des royaumes de l'Eucoumène, que les blanches falaises défendaient des ressacs égéens. Les esclaves hélènes du Brenne avaient été exhibés devant les soldats. Ces pauvres airs pliés par le fouet avaient décrit quel genre de trésor se chauffait au soleil du Péloponnèse. Ils avaient peint les fastes des temples de Minerve. L'avidité avait allumé le regard des brutes. L'armée des loups du Brenne s'était ainsi gonflée. En Thrace, on raconta que le nuage de poussière soulevé par la horde restait une journée en suspens avant de retomber. La troupe traversa la Macédoine, la Thessalie, et s'achemina vers la Grèce centrale. Elle abourait la terre de son pas et laissait derrière elle une couche de cendres qui épongeait le sang. Alexandre de Macédoine avait brûlé les forces de son peuple dans la fournaise de l'Orient. Nul citoyen d'aucune cité de Grèce n'avait assez de puissance pour enrayer l'assaut. Des frères jumeaux, Arlade et Batana, originaires du pays guelfe, par-delà les forêts teutoniques, commandaient la garde du Brenne. Ils montaient des étalons noirs et ne prenaient pas de repos. Ils rôdaient sur le flanc des colonnes, surgissaient à la tombée du jour dans les carrés formés autour des feux de bois, se déplaçaient aussi silencieusement que des ombres. Pas un des soldats du Brenne n'apercevait, sans trembler, leur silhouette. Les jumeaux n'accordaient pas plus de prix à l'existence qu'à une poignée de sable, et ils tranchaient les têtes, qui ne se baissaient pas assez vite. Dans les combats, ils étaient toujours au premier rang, et se battaient avec indifférence, un sourire triste aux lèvres, jusqu'à ce que l'écume moussant au flanc de leurs chevaux se colore du sang des ennemis dont ils fauchaient les vies à grands moulinets de bras. Ils ne se parlaient pas, se comprenaient d'instinct. Les hommes de troupe les surnommaient les centaures. À Delphes, le Brenne, debout sur le pavois d'argent que soutenaient deux Thermopyles, expliqua que le temple d'Apollon, sur la Crète, recevait depuis des décennies les offrandes des citoyens hellénistiques. Cette corne d'abondance était ouverte aux appétits de ces fantassins et les récompenserait de leur marche forcée. Les Delphiens échappèrent au massacre grâce à la pitié qui les adjura de ne pas barricader leurs magasins et de laisser les barbares piller leurs caves. Les Gaulois, étourdis par les vins du Parnasse, furent moins cruels qu'à l'accoutumée. Sous la conduite des deux centaures, ils vidèrent le temple d'Apollon. À la fin du jour, il ne restait plus rien du trésor de Delphes. Alors qu'on achevait de charger le butin dans les chariots du Brenne, des nuées d'acier capuchonnèrent le Parnasse et l'orage s'abattit sur la cité. Dans les ébrures d'éclairs, les uns décelèrent l'intercession d'Apollon, les autres la colère de Bélénos. La panique gagna les rangs gaulois. Le Brenne sonna la retraite pour ne pas risquer la débandade. Les citoyens de Delphes, vivifiés par le secours du ciel, harcelèrent les arrières colonnes de la horde. 6 000 hommes du Bren tombèrent. Le reste de l'armée ne s'occupa pas de ces morts. Que pesait la montagne de leur chair à côté de l'or raflé? La retraite se poursuivit sous un ciel de malédiction. Les Grecs se ressaisirent. Le sort avait tourné pour la meute des loups. Des troupes de volontaires hellènes, campagnards et citoyens, assoiffés de vengeance, harcelaient les flancs barbares. Les nuages apportaient chaque jour de nouvelles tempêtes. Le froid et la faim minaient les forces. Qui aurait cru que cette armée de gueux, traînant sandales dans la neige, puisse posséder un trésor d'empereur? Des soldats tombaient d'épuisement. On ne les relevait pas. Chaque être abandonné sur le chemin augmentait la part finale des survivants. Seule la perspective du partage et les coups de fouet des jumeaux teutons maintenaient la discipline. Le chef gaulois, blessé à la gorge à Delphes, mourut avant la frontière. Les hommes, rendus à l'état de cadavres vivants, quittèrent la Macédoine. Lorsqu'ils jugèrent la colonne en sécurité, les centaures sonnèrent la halte. On disposa les faisceaux, on chassa le gibier. À la lueur des foyers où grillaient des cerfs et l'affe, les chefs comptèrent les hommes et au matin, on déchargea les chariots pour procéder à la distribution de l'or delphien. Grâce aux 200 centaures teutoniques, le partage ne tourna pas au carnage. Les jumeaux s'enfurent avec leur part dans un coffre de bois qu'ils serraient à tour de rôle sur les arceaux de leur selle. Contrairement aux hommes de l'armée disloqués, ils ne poursuivirent pas vers le nord, mais rebroussèrent chemin, revinrent en Macédoine et chevauchant sous la lune dans des maquis pierreux, prenant soin de contourner les hameaux, mirent cap sur la côte du Phanas, qu'ils atteignirent en 3 jours. Le soir tombait quand ils fondirent le Morodon dans les venelles d'un petit port de pêche. Avant même de lâcher la mare qu'il était occupé à lever, le propriétaire d'un bateau marchant à marée sur la jetée fut décapité. La tête roula aux pieds des ravaudeurs. Les diables guelfes laissèrent leurs étalons piaffés sur les pavés, prirent pied sur les skiffs, jetèrent par-dessus la bordée 2 esclaves nubiens qui chargeaient les amphores. Ils hissèrent les voiles, le bateau s'arracha du quai, les chevaux écumés à terre, privés d'ordre, séparés de leur maître. Les 2 frères prirent le large par Fort Meltem. Ils avaient pour plan de gagner le repli d'une île isolée. Il fallait laisser passer les orages déclenchés en Grèce. Plus tard, ils reprendraient la mer, dépasseraient les colonnes d'Hercule, contournerait la péninsule des Ibères pour toucher au rivage de Gaule afin de regagner les côtes baltiques par les forêts de chênes. L'itinéraire était long, mais plus prudent qu'une incertaine retraite à travers la Pannonie où devaient pulluler les fauves de feu le Bren, fantômes d'une armée dissoute, chiens rendus à la loi des loups. 2e jour de navigation, ciel d'azur. D'étranges nuages se pressaient au-dessus du front de Arlade et Batana. Pour la première fois dans leur existence, la discorde s'immisçait entre eux. Elle naissait sournoisement, pareille à cette légère brise du matin qui devient un violent vent du nord aux heures chaudes. Les 2 frères se parlaient davantage que de coutume et ce signe manifestait que le destin tournait. L'or contenu dans le coffre troublait leur entente, irradiait dans l'atmosphère ses ondes corrosives. Le rayonnement jaune agissait sur les liens magiques de la gémellité, désaccorder les battements en écho de ces cœurs de même sang. Le coffre avait été arrimé au pied du mât sur le pont extérieur. Les frères perdirent le sommeil à se surveiller. Arlade se levait avant l'heure de son guet. Batana bondissait au moindre craquement. Pour peu que Batana scrutât l'horizon, Arlade avait le sentiment qu'il fixait le coffre. Il se défiait du regard avec suspicion. Le 4e jour, au large d'Ilinos, Arlade surprit Batana près du coffre. Les cordages étaient distendus et il fallait les resserrer. C'est l'explication que Batana avança et qui lui valut d'être traité de menteur. Arlade ajouta qu'il n'y avait pas de place pour cette race sur le pont d'un navire. L'affront lui valut un coup à la mâchoire. La lutte dura 1 seule minute. Les corps roulèrent sur le pont. Ils vécurent le combat comme une expérience étrange. Chacun ressentait en ses propres nerfs les coups qu'il assénait dans la chair de son frère. Ils avaient assez de force pour s'entretuer. Ils n'en eurent pas le temps parce que le bateau avait dérivé contre les récifs du cap Naxanos. Une saillie ouvrit la coque et le navire coula. Les frères furent engloutis et Poséidon ne jugea pas utile de prêter secours à 2 hyperboréens. Mai 1930. 2000 ans après cet événement, sur la jetée principale du port de Naxos, trois hommes dans un voilier discutaient d'une affaire. 150 000 $? 150 000 $, c'est beaucoup, mais ça dépend pourquoi. Il y a des informations qui valent leur prix. C'est ce que se disait le grec pour se conforter. Il n'avait jamais prononcé dans sa vie le montant d'une pareille somme, et comme tous les prolétaires élevés dans l'idée que leurs conditions résultent d'une malédiction historique, il avait peur de la richesse. Karl et Ernst se regardèrent un moment. Ils étaient jumeaux parfaits, très beaux et avec des yeux bleus baltiques, mais ceux de Karl tiraient sur le blanc. « Attendez-nous ici, monsieur le grec. Servez-vous du whisky, nous allons réfléchir, » dit Karl. Les deux messieurs appelaient le grec « monsieur le grec » et le grec s'était habitué à ce surnom. Les jumeaux montèrent sur le pont. Ils étaient vêtus de polos de laine blanche et crue, à larges côtes et de pantalons en coton léger. Et le grec se demanda comment il se débrouillait pour les maintenir parfaitement repassés. Il eut honte de son t-shirt gras. Il tira son col et regarda son gros ventre blanc couvert de poils noirs. Eux, les vieux, étaient secs comme des élingues. Dans les pays pauvres, les pauvres sont maigres, mais dans les pays riches, ils sont gros. S'il obtenait l'argent, il irait en Afrique, à Gorée, il ouvrirait un centre de pêche pour les touristes. À midi, il servirait des mésées à ses clients et le soir, il les emmènerait pêcher le mérou. Avec 150 000 $, déjà qu'on est le roi, mais chez les Africains, on est l'empereur. Le grec se reservait une lampée au moment où Karl et Ernst redescendirent. Le grec observa leur cou bronzé. La peau faisait un double pli. De part et d'autre de la trachée, comme chez les tortues, sauf que ces types ressemblaient plutôt à des félins. « Monsieur le grec, vous êtes exigeant, » dit Karl. « Oui, mais il y a des informations qui valent leur prix, » répondit le grec, qui avait répété la formule avant de venir. « Colossale somme, » dit Ernst, « nous ne pourrons souffrir la moindre approximation. Il n'y en aura pas. 150 000 $ et je vous amène où je vous ai dit. Vous aurez la moitié tout de suite en liquide. » Puis un quart sur place après la première plongée et la dernière livraison quand on aura remonté la chose. « Ça se discute pas ?»« Nein. » On décida d'un départ le surlendemain, ce qui laissa aux Grecs le temps d'acheter des vivres pour 10 jours. Cigarillos avait écrit Karl sur la liste, feta, whisky et légumes frais. D'ouvrir un compte à la Banque nationale d'Athènes et de changer de t-shirt. La mer était très belle et le vent portait bien. On passa Samos, Icare, Patmos. Sitôt que s'éloignait une côte, la suivante surgissait. Les voiles, parfaitement tendues, n'émettaient pas le moindre claquement. Le ciel était bleu, des îles pointaient à l'horizon. Si dans la Grèce de l'âge du marbre se sont développées des écoles de pensée d'une solidité éternelle, c'est grâce à la simplicité de sa géographie. Il n'y a rien qui puisse prêter à la confusion mentale dans ce paysage, la nature réduite à l'expression de ses éléments, l'air, la terre, la mer, à mâcher le travail des philosophes en leur offrant une vision limpide de l'ordonnancement du monde. Les deux yachtmen étaient impassibles dans leur tricot blanc. Ils portaient des lunettes de soleil et tenaient le cap au degré près. De temps à autre, l'un d'eux accomplissait un tout petit réglage afin de maintenir l'équilibre du voilier. Le grec gardait le silence. Il avait faim, mais n'osait pas le dire. Ce n'était pas le genre de préoccupation dont on faisait part à des types comme Ernst et Karl. Les deux frères ne disaient rien. L'étrave bien coupée fendait la mer sans à-coups, le silence régnait. Le grec supportait mal ce calme. Il était habitué au littoral grec où le swing des clubs avait remplacé les ressacs. Il repensa à ce jour d'avril où il remontait ses filets, lorsqu'il découvrit les deux poignards en or, puis, en les jetant à nouveau, lorsqu'il pêcha des boucles de ceinturon. Il comprit, tenait fortune. Le soir de la découverte, en rentrant au port de Naxos, il demanda aux frères allemands de le recevoir à bord de leur ketch. Les jumeaux s'étaient installés dans la marina 2 années auparavant et on ne savait pas grand-chose d'eux, sinon qu'ils étaient du Mecklembourg, qu'ils étaient très riches, s'adonnaient à la plongée sous-marine, buvaient du champagne le soir sur la coupée, naviguaient peu et s'intéressaient aux objets de collection. Ils battaient souvent la région en quête d'antiquités, puis disparaissaient quelques jours vers la Turquie avant de revenir au port. La rumeur les tenait pour des receleurs. Un jour, les douanes, munies d'un mandat, avaient fouillé le voilier. Les Allemands avaient assisté à l'opération en fumant des cigares dans des fauteuils d'osier sur le quai. Les officiers étaient repartis bredouille. Le grec, de temps à autre, délaissait ses filets et ses paniers à crustacés et se louait aux Allemands. Il briquait l'accastillage, restaurait les haubans. Les frères l'aimaient bien, malgré sa saleté. Le soir de sa découverte, lorsqu'il déroula les chiffons dans lesquels il avait enveloppé les poignards, il comprit qu'il avait touché juste, car Karl, qui ne disait jamais un mot inutile, ne put se retenir. Ah ! Le grec montra ensuite les boucles de ceinturon. Ernst leva les sourcils. Les Allemands n'avaient pas habitué le grec à une telle expansion. Ils étaient ferrés. Le pêcheur savait que les chasseurs de trésors s'exposent à la convoitise des autres pilleurs autant qu'à la sévérité de la justice. Ils n'avaient pas les ressources nécessaires à une campagne de fouilles. Ils n'auraient pas su à qui refourguer les pièces. Il y a des mains qui ne sont pas faites pour les butins brûlants. Il était plus raisonnable de monnayer son secret en laissant aux deux frères la jouissance de ce qu'il renflouerait. Aux jumeaux les risques et à lui les 150 000 $, le Sénégal, l'avenir. Voilà comment on se pêche une nouvelle existence dans un filet à sardines. Le grec guida les frères jusqu'à la corne de l'île. Un récif, constitué d'émiettements de granit, émergeait à 300 mètres de la ligne de côte, une de ces charpies de rochers dont les affleurements ne se distinguent que par l'écume. Le grec fit doubler la position et chercha l'endroit. Les Allemands obéissaient à ses indications. « C'est là, » dit le grec. « Goutte, » dit Ernst. « Profondeur ?» questionna Karl. Ernst, à la sonde, cria. « 15 mètres !»« Position ?» 38°45 nord et 22°55 est. Ah ! Dit Karl. L'endroit correspondait à une indentation de récif sur le flanc sud-ouest de l'île, juste à l'extrémité d'un bras dense naturel qui protégerait le bateau du Meltem. On jeta l'ancre, on fila 40 mètres de chaîne, l'ancre chassa, puis mordit la roche. Le grec trouvait les teutons fébriles, bien qu'ils s'évertuassent à le cacher. Leur excitation se traduisait par d'imperceptibles changements de comportement. Karl se lissait les cheveux plus souvent que de coutume, d'un geste coupant, et Ernst concluait chaque manœuvre d'un « goutte-goutte, zer-goutte », ce qui, chez un mecklembourgeois à sang-froid, traduisait un grand désordre de l'âme. L'annexe de bois amena les trois hommes jusqu'à une plage de sable. Tout au long du soir, on déchargea des caisses et le matériel de plongée. L'or qui dormait si proche, par 15 mètres de fond, dans la douceur de l'Égée, agissait de toute la puissance de ses radiations. Le champ magnétique de certains êtres est particulièrement sensible aux émissions invisibles des métaux précieux. Au XIXe siècle, des théoriciens de l'énergie ont étudié ces phénomènes de rayonnement et démontré que les épisodes de ruée vers l'or qui émaillent l'histoire des nations n'étaient autres que d'irrépressibles élans de chair vers une source irradiante. Le grec, qui n'avait pas étudié la littérature occulte, se rendait tout de même compte que les Allemands n'étaient pas dans leur état normal. On retourna à bord du voilier. La nuit fut épuisante. Karl et Ernst ne trouvaient pas le sommeil et le bois des bannettes craquait. L'aube arriva, on plongea. Les Allemands ne tenaient pas à s'attarder dans les parages et mirent au point un système de rotation. Un frère sur le pont triait et lavait ce que l'autre avait chargé dans le panier, et l'on se relayait toutes les heures et demie. Organisation prussienne et musique lyrique, pour dissiper la monotonie des heures, on avait branché un gramophone qui jouait l'ouverture de Lohengrin. Le grec, de plus en plus inquiet, faisait rissoler des tomates aux oignons et lamper du whisky en jetant des regards vers le large. Le butin dépassa les espérances. D'habitude, les chasseurs de trésors tombent de haut quand ils rêvent à d'improbables moissons. Combien de plongeurs qui croyaient avoir mis la main sur l'Eldorado doivent se contenter d'un tas de vaisselle en terre cuite, mangée de coquillages. Cette fois, c'était comme si le grand Inca avait vomi dans l'Égée le trésor de l'Empire. Il s'agissait du butin, du pillage d'un lieu saint. À travers son masque de plongée, Karl avait identifié au premier coup d'œil des objets votifs grecs antérieurs au IIIe siècle et notamment des figurines d'Apollon en or massif. L'épave, presque entièrement désagrégée, laissait reconnaître un petit vaisseau de charge grecque de 30 pieds de long. La coque avait certainement cogné contre le récif et le vaisseau coulait à pic dans un creux du tombant. La nef s'était fichée dans l'axe d'une faille et le bois s'était désagrégé sans que le contenu de la cale s'égaille dans les courants, protégé par le berceau pétré. Les Allemands travaillèrent 15 heures d'affilée le premier jour. Le ciel était rouge quand ils consentirent à prendre du repos. La nuit, ils établirent des quarts de 2 heures, mais le grec fut dispensé de tours de veille. Le pêcheur découvrit avec déplaisir que les jumeaux disposaient à bord du bateau d'une panoplie d'armes de guerre, pistolets Luger et fusils Mauser. Au soir suivant, Ernst et Karl avaient arraché à l'épave tout ce qui y brillait. Il y avait de quoi remplir une cantine, des armes, des plateaux, des poignards, des fibules, des calices, des foudres et des cloches. « Merde, merde, de l'or, rien que de l'or !» avait murmuré le grec, s'attirant un regard d'Ernst d'un bleu si aiguisé que son âme en saigna. Les Allemands n'attendirent même pas que le troisième jour pointe pour lever l'ancre. Il fallait quitter les lieux avant d'éveiller les curiosités. On navigua de nuit sous une lune païenne. On visait le port de T, où l'on avait prévu de débarquer le grec. Il partirait avec ses émoluments et l'ordre de se taire. Les deux frères, eux, continueraient leur course. Ernst réactivait sans relâche le gramophone et le bateau tirait dans son sillage des haillons de musique, fracas de cuivre et coups de timbales. Les Allemands avaient des regards électriques. La cantine d'or reposait dans la cabine avant. Le grec se tordait les lèvres. Le soir, Karl et Ernst s'échangèrent des propos d'une acidité dont ils n'étaient pas coutumiers. Au cours de la nuit, le grec, torturé par l'insomnie, sortit sur le pont pour baigner ses yeux dans le clair de lune. Il sursauta en passant dans le cockpit. Les deux frères veillaient, Karl à la proue, Ernst à la barre. Immobiles, ils se fixaient, ils ne se quittèrent pas des yeux jusqu'à l'aube. Le manque de sommeil avait rougi leurs paupières. Ils s'épièrent tout le long du quatrième jour. Le bateau filait plein est. Au cours de la journée et de la nuit suivante, on ne prit plus de repas. On se contentait de happer quelques vivres dans le garde-manger. On vivait sur des braises. Les jumeaux, aux aguets, sombraient dans des siestes rapides. La fatigue fit sauter les verrous génétiques qui prémunissent les jumeaux du fratricide. Chacun attendait l'instant de fondre sur l'autre. Le whisky ne calmait plus les tremblements du grec qui avait pris en charge le gramophone et le remontait en pensant que les symphonies apaiseraient la démence. Le sixième jour, à midi, des éclats de voix précipitèrent le grec sur le pont. Karl reprochait à son frère ses visites dans la cabine de proue. L'autre répliqua qu'il fallait veiller à ce que la cantine ne cognât pas contre la paroi. Le premier coup de feu partit quand le mot de « menteur » fut prononcé. Karl reçut l'insulte, Ernst reçut la balle, mais il eut le temps de tirer lui aussi avant de s'écrouler. Combien de secondes le grec resta-t-il devant les deux cadavres ? Le bateau percuta à 9 nœuds de vitesse les récifs du Cap Mélinos devant l'île de X. La coque explosa et la dernière pensée du grec fut pour ses années de boisson qu'il aurait dû mettre à profit pour apprendre à nager. Mais les gens se croient immortels et négligent les précautions. Les eaux avalèrent le bateau, l'écume bouillonna, puis la mer effaça tout. Après avoir englouti le secret des centaures guelfes, léger recouvrait celui de Karl et Ernst. À part quelques philosophes grecs qui le prêchaient autrefois, il n'y a que les dieux de la mer qui sachent que l'histoire se répète.